Bonsoir, bonsoir Aïssa Girondin avec vous pour À votre avis. Aujourd'hui, on parle des défis d'Ibeka à la tête du Mali. Les électeurs ont décidé de le reconduire. Ibrahim Boubacar Keïta à la tête du pays. Il a été réélu le 12 août avec 67,17% des voix selon les résultats officiels. Il a 5 ans pour tenir ses promesses et il aura fort à faire pour redresser le Mali qui est divisé et fragilisé. Le chômage est très élevé. L'accord de paix avec les rebelles Touareg tarde à se réaliser et les djihadistes multiplient les attaques malgré la présence de plusieurs forces sur le terrain. Donc, à votre avis, quels seront les principaux défis pour Ibeka après sa réélection? Nous attendons vos réactions en appelant le 001 202 205 26 33. Mais tout d'abord, pour en parler avec nous de Bamako, Badié Ima, le directeur du NDI, l'Institut National Démocratique pour les Affaires Internationales au Mali. Bonsoir Badié.
Bonsoir, la voix de l'Amérique.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Donc, tout d'abord, vous qui connaissez très très bien le contexte malien, y a-t-il véritablement de nouveaux défis?
Il y a indubitablement des nouveaux défis. Mais vous avez parlé de résultats officiels et les résultats sont provisoires. Il faudra attendre l'arrêt de la Cour constitutionnelle encore.
Effectivement.
Alors, mais maintenant, et quoi qu'il en soit, il y a des défis et des défis majeurs. Et ils sont des défis d'aujourd'hui, mais des défis d'aujourd'hui qui sont en tout cas le continuum de ce que le pays a vécu depuis 5 ans et je peux même dire depuis la signature de l'accord pour la paix. Et moi, je vois fondamentalement 2 ou 3 défis majeurs et je m'en tiens vraiment à 2 ou 3 défis majeurs. Le premier, vous l'avez annoncé dans votre introduction, c'est la mise en œuvre quand même de l'accord pour la paix et la réconciliation.
Oui.
Je pense que le premier défi du président de la République sera d'accélérer la mise en œuvre de cet accord. Je ne suis pas sûr si tout le monde a vraiment lu l'accord pour la paix attentivement, une lecture vraiment attentive et entre les lignes.
Accord qui a été signé en 2015 gouvernement et l'ex-rébellion à dominante Touareg.
Merci. Cet accord comporte 7 titres et 3 annexes. Je dois dire, si vous l'examinez de près, cet accord est un véritable plan de développement national. Et je crois qu'une mise en œuvre efficace et rapide de cet accord pourrait permettre de résorber plusieurs questions sociales et économiques et qui se posent aujourd'hui aux Maliens.
Mais pourquoi ce retard dans son application?
Alors, il faudra, bien évidemment, et ça fait partie des défis du nouveau président, ou du président élu, il faudra surtout identifier les causes de lenteur. Il y a une unanimité ici aujourd'hui qui est partagée, les lenteurs ou la lenteur dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Il faut véritablement examiner avec l'ensemble des parties prenantes quelles sont les contraintes objectives qui font que cet accord-là, sa mise en œuvre, je ne dirais pas, est bloquée, mais elle est lente. Et le deuxième point par rapport à l'accord pour la paix, comment créer les conditions d'une large adhésion nationale à cet accord-là? Je pense que sur ce point-là, les lignes n'ont pas beaucoup bougé parce qu'ils se rencontrent des Maliens encore qui expriment leur désaccord par rapport à cet accord.
Pourquoi est-ce que vous pensez que cet accord ne correspond pas, ne reflète pas en fait la volonté de tous les Maliens?
Oui, mais peut-être surtout parce qu'il nécessite encore d'être explicité davantage. Alors, et je pense que c'est un élément important. Mais toujours lié à ce premier défi, n'oublions pas que, et au moment de la signature de l'accord pour la paix, les problèmes que le centre du Mali vit aujourd'hui, on ne les connaissait pas encore. Et voilà pourquoi je crois fermement que la mise en œuvre de l'accord pour la paix ne doit pas ignorer à côté le centre et la nécessité d'un dialogue communautaire au centre qui implique l'ensemble des communautés.
Mmh.
Est-ce que cela peut se transformer par des annexes qui vont être intégrées dans l'accord? Cela pourra donner un accord global pour l'ensemble du Mali. Il reviendra aux dirigeants, au gouvernement, au président de la République, en lien avec l'ensemble des parties prenantes, notamment les acteurs du centre, et pour examiner le modus operandi.
Merci.
Je pense que c'est essentiel. Donc, il est nouveau et ancien ce premier défi-là.
Avant d'enchaîner sur le deuxième défi, on va prendre un auditeur pour rebondir. Merci beaucoup, Badie Ima, pour ce premier défi qui est la relance donc de l'accord de paix. Nous avons avec nous Brahima Doumbia. Bonsoir.
Bonsoir à tous les auditeurs de la VOA. Bonsoir à Iraïsa.
Bonsoir Brahima. Donc, quel est votre avis déjà pour rebondir sur ce qu'a dit Badie Ima? Pensez-vous que le défi déjà principal, c'est la relance de l'accord de paix?
Le défi actuellement, il y a plusieurs défis. Le défi actuellement, de mon point de vue, c'est la réunification, ou bien je dirais, et le fait de faire en sorte que tous les acteurs politiques puissent entrer et parler d'une même voix, puisque quand je dis une même voix, actuellement il y a des déchirures. Et c'est vrai, les résultats officiels n'ont pas été proclamés, mais quand on voit un peu les déchirures, certains qui disent que j'ai remporté les élections alors que bon, les résultats n'étaient pas officiels d'abord. Je pense qu'il y a ce problème d'abord, puisque même si le président est élu, il faut, je dirais, la réunification. Il faut que tout le monde accepte que le président a été élu démocratiquement, ce qui va lui faciliter la tâche. Chacun va se donner la main, chacun va se dire « Ah, c'est un devoir pour nous tous alors d'aller dans le même sens et de se donner la main pour que ce pays-là aille de l'avant.
Mm-hmm. »
Et après cela, je pense que il y a, comme le monsieur l'a si bien dit, c'est vrai, il y a l'accord qui a été signé et qui aujourd'hui peine à être mis en œuvre. Je pense qu'il y a, ce problème-là, il faut quand même pallier à cela, il faudra quand même tout faire pour que tous les acteurs quand même puissent jouer pleinement leur rôle. Du côté de l'État, je pense que l'État fait de son mieux. Et du côté aussi de la rébellion ou autre, je pense qu'aussi, eux aussi, ils doivent faire de leur mieux puisque cet accord, il a été signé par toutes les parties. Et je pense aussi que les bailleurs et autres quand même sont prêts à aider le Mali. Et si l'accord est bien appliqué, c'est la décentralisation, c'est le développement du pays.
Donc et vous aussi, pensez que pour que ça se passe, il faudrait qu'il y ait des bailleurs internationaux qui interviennent?
Effectivement, puisque l'accord est gage l'application de l'accord est gage du développement, de mon point de vue, puisque il y a ces bailleurs là qui sont prêts, de mon point de vue, à aider le Mali à la reconstruction du nord du Mali.
Mm-hmm.
C'est vrai, il y a des sommes qui sont déjà données pour la reconstruction du nord, mais il y a aussi des sommes encore qui, de mon point de vue, sont toujours bloquées. Et si l'accord est bien appliqué, je pense que un développement quand même qui va créer de l'emploi dans ces zones là, puisque l'exode rural, ça pousse aussi ces jeunes là du nord à venir vers Bamako, et Bamako aujourd'hui, je dirais, est un peu touffu. Il faudrait quand même créer de l'emploi dans ces zones là qui serait fait si l'accord est appliqué. Il y a aussi,
mais
je dirais encore,
Vous en avez dit tellement, en fait. Donc, j'ai noté l'acceptation déjà des résultats par tous, l'intervention de bailleurs internationaux, la création d'emplois. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va laisser d'autres auditeurs même intervenir. Mais je vais retourner déjà vers Badie Ima. Vous êtes toujours avec nous?
Oui,
vous avez entendu notre auditeur qui nous a donné déjà plein de défis. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, mais Brahima a fait une excellente analyse et puis qui reprend déjà les points essentiels que j'ai résumés dans le premier défi. Voilà pourquoi je parlais de large adhésion et à l'accord pour la paix. Ça a une large adhésion nationale, donc l'accord restera entre le gouvernement et les représentants des anciens mouvements. Et je pense que c'est pas suffisant. C'est un accord pour le Mali et il faut impliquer l'ensemble des institutions maliennes, l'ensemble des acteurs maliens et pour que vraiment des pas décisifs puissent être faits dans ce sens. Mais bien évidemment, Ibrahima a parlé de la décentralisation du développement.
Oui.
Mais relisons l'accord pour la paix. Il y a des titres entiers sur les questions de développement et les questions de régionalisation ou de décentralisation. Voilà pourquoi j'avais dit et à l'entame de mon propos que l'accord pour la paix me semble être un véritable plan assez original, assez rénovateur de développement national pour le Mali entier. Et si l'ensemble des acteurs s'asseye pour voir l'ensemble des piliers, en tout cas de l'accord pour la paix, comment les mettre en œuvre. La problématique sécuritaire est en bonne place et transversale à l'ensemble des 7 titres et des 3 annexes de l'accord pour la paix.
Avant de revenir sur justement cet aspect sécuritaire, on va prendre un autre auditeur et il se bouscule là. On a Thierry. Bonsoir Thierry.
Oui, bonsoir Aïssa.
Comment vous allez?
Je vais très bien, merci.
Alors, un petit votre avis donc sur les principaux défis pour Ibeka après cette réélection?
Bon, écoutez, madame, les défis sont très nombreux, mais en tout cas, pour moi, j'aimerais revenir sur 3 choses. D'abord, vous avez vu, par ailleurs entendu, sur les lèvres de tous les acteurs politiques qui ont participé dans la campagne électorale. Souvent, nous avons entendu, et aussi, ils évoquaient les conflits intercommunautaires au Mali. Donc, je dirais que ce qui compte d'abord, il faut aujourd'hui penser à réunir toutes les communautés. Et puis, entendre pour qu'en fait, les conflits intercommunautaires cessent maintenant. Deuxième chose, vous voyez, le Mali est aujourd'hui aussi secoué par une insécurité liée aux conflits et aux attaques terroristes. J'aimerais donc que M. Ibeka aujourd'hui se lance, ou bien que M. Ibeka concentre ses efforts à sécuriser le peuple malien. Et aussi aujourd'hui, il ne faut pas compter à la France, il ne faut pas compter aux aides extérieures pour lutter contre le terrorisme. Mais tout d'abord, il faut compter sur l'armée nationale. Et autre chose qui aujourd'hui doit dominer, vous voyez, c'est la jeunesse qui est instrumentalisée pour pouvoir créer le désordre, pour pouvoir sécuriser dans le pays. Donc ce qui compte tout d'abord, il faut chercher à ce qu'au moins un grand pourcentage de jeunes puissent avoir de l'emploi facilement, c'est ça.
Merci beaucoup Thierry pour votre commentaire. Donc Badiaïma, vous avez entendu, il a dit, Thierry nous dit, il ne faut pas compter sur l'armée extérieure. Alors, y a-t-il pas eu, sur la question sécuritaire là, y a-t-il pas eu un changement dans l'opinion publique malienne concernant la présence militaire externe qui est un peu longue dans le pays?
Oui, mais c'est sûr qu'il y a eu des moments où la présence des armées extérieures a été extrêmement décisive pour vraiment sécuriser le pays. Et il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que Sarval, puis Barkhane, ensuite l'AMINUSMA ont été d'un apport extrêmement déterminant pour aider les FAMA, les forces de défense et de sécurité maliennes. Mais c'est sûr que au terminus, c'est fondamentalement, il reviendra en cas à renforcer les capacités des forces nationales. Ce sont les forces nationales qui auront à charge et dans la durée, sur le long terme, et d'offrir les services de sécurité à souhait pour l'ensemble des Maliens.
Donc c'est possible, il n'est pas trop tôt pour que les forces nationales justement assument cette responsabilité.
Oui, mais je pense que les forces armées maliennes sont en train de monter. Et ils sont en train de monter et vous constatez dans beaucoup de directions, ils sont en pointe, accompagnés bien évidemment par les forces de l'AMINUSMA, du G5 ou de Barkhane, entre autres. Et donc, je pense qu'il y a un progrès Et dans ce sens, il faut encourager toutes les initiatives qui consisteront en tout cas à renforcer et à accompagner les Maliens en mettant d'abord les Maliens devant.
Très bien.
C'est extrêmement important. Et bien évidemment, Thierry abordait dans sa contribution à cet échange et ce que je considère comme le deuxième défi majeur.
Qui est la jeunesse?
Qui est l'emploi? Moi, je dirais l'emploi et l'éducation. Mm-hmm. Ils sont liés. Ils sont liés. Et récemment, je parlais par rapport au défi du président élu, je parlais d'un plan Marshall pour l'emploi et l'éducation.
Avant qu'on continue justement sur ce plan Marshall et sur l'éducation et la jeunesse, on prend un auditeur et je vous reprends sur ce sujet. Pancras Lovou du Bénin, bonsoir. Allô, bonsoir.
Madame la journaliste, bonjour à tous les invités de RVA Afrique.
Oui, bonsoir. On vous entend un peu de loin, par contre. Si vous pouvez vous rapprocher du combiné. Oui, on vous entend pas très bien, donc je vais reprendre Badie Ima. On vous reprendra juste après. Désolé. Donc, on a un autre auditeur. Diallo Tierno, bonsoir.
Oui, bonsoir à Raïssa et bonsoir à l'ensemble des auditeurs de VOA.
Oui, bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous pouvez commenter justement ce défi, le défi de l'emploi? Qu'est-ce que vous en pensez au niveau du Mali?
Bon, pour moi, le défi reste le même parce que le président Yedeka, il était élu en 2013 pour rétablir l'ordre au Mali et pour la sécurité des citoyens au Mali. Mais il faut qu'on dise la vérité, il a échoué. Malgré les efforts qu'il a fournis, il a échoué. Je souhaite qu'il réussisse avec la coopération des grandes puissances de ramener la paix au nord du Mali et au centre aussi qu'il y a eu des affrontements intercommunautaires tout récemment.
Oui.
Il faut qu'il s'attende sur ces points-là. Parce qu'on ne parle pas du développement sans la paix. Sans la culture sociale d'un pays est menacée. Il y a des indépendantistes de l'autre, il y a des terroristes de l'autre. Côté, il y a des affrontements entre communautaires. Il faut que le gouvernement préoccupe de la sécurité d'abord. Parce que c'est là ce qui est plus important. À mon avis, il faut qu'il fait l'effort cette fois-ci. Il ne faut pas qu'il échoue parce que le peuple malien l'a reconduit pour 5 ans encore, pour qu'elle fait l'effort de rétablir l'ordre au centre et au nord du Mali.
Au niveau de la sécurité.
Je vais demander au chef de file de l'opposition rapidement de ne pas contester avec les RIL. Il n'a qu'à faire recours à la Cour constitutionnelle. Au cas où la Cour arrive à rejeter ses recours, il n'a qu'à privilégier le dialogue pour sauver la nation. Parce que la Mali d'aujourd'hui n'a pas du tout besoin de contestations post-électorales. Vous voyez, la Côte d'Ivoire et beaucoup d'autres pays africains, là où il y a des bras de fer entre le président sortant et le chef de file de l'opposition, il y avait eu le chaos. Le Mali d'aujourd'hui n'a pas besoin de ça.
Et merci.
Pandier, et puis, c'est tout.
Merci beaucoup, Diallo Tierno, pour cette intervention. C'est vrai que, bon, faut éviter tout ce qui est contestation et surtout violence post-électorale. Donc, on ne souhaite pas ça pour le Mali. Je vais reprendre Badie Ima. On va retourner justement sur ce défi de l'emploi au niveau économique. Vous nous avez parlé d'un plan Marshall. Qu'est-ce que contient ce plan Marshall?
Alors, d'abord, merci à Tierno pour les mots très très forts qu'il a utilisés et je peux résumer en disant, si je l'ai bien compris, et parce qu'on n'a pas parlé un peu du processus électoral, c'est pas le sujet de notre débat.
Oui,
notre
le sujet c'est les défis, on est tourné vers l'avenir.
Voilà, mais c'est clair que, et comme il le dit si bien, il ne faut pas ajouter une crise à la crise.
Oui.
Et parce que déjà, c'est des efforts immenses que le pays est en train de faire pour pouvoir sortir de la crise. Il ne faut pas en rajouter. Mais maintenant, il faudra certainement un dialogue. Il faudra un dialogue et vraiment inclusif pour que les Maliens puissent s'entendre pour boucler le processus électoral dans les meilleures conditions d'apaisement et d'accalmie. Alors, maintenant, l'emploi, et je pense que ce n'est pas un défi qui se pose uniquement au Mali, mais à l'ensemble de nos pays.
Du continent, oui.
Et nous voyons que et aujourd'hui, même la question sécuritaire a des dimensions liées à la situation de la jeunesse. On voit bien que par rapport à la migration, par exemple, par rapport à l'enrôlement des jeunes dans les filières djihadistes
ils sont au chômage.
La précarité, dans laquelle les jeunes se trouvent, qui les expose à cette instrumentalisation rampante. Mmh. Et quand on voit les flux, en cas de jeunes qui sortent, de l'université ou des écoles professionnelles, et allez dans le premier café de Bamako, vous allez constater que les jeunes qui servent, filles ou garçons qui servent le café, ils ont le master 1, 2 ou deux diplômes.
Donc en fait, la qualité de l'éducation au Mali est bonne, c'est voilà, ce que vous sous-entendez.
On abordera la question de la qualité ou du contenu ou des curricula, mais l'une des premières questions, vous avez des diplômés qui sortent et qui se retrouvent dans la rue. Mmh. Il y en a qui font pratiquement 2 ans, 3 ans, 4 ans. Même un stage, pour commencer, ils ont du mal à trouver, à plus forte raison, un emploi permanent qui les sécurise. Et nous les voyons au quotidien dans les cafés, et avec la licence, avec le master, en train de servir du café dans les restaurants, etc. Je pense qu'il faut vraiment que nos gouvernements prennent à bras le corps la question de l'emploi. Et il ne s'agit pas non plus, quand je parle de plan Marshall pour l'emploi, et je ne vais pas dire que tout Malien qui sort de l'université ou tout Congolais, Nigérien ou Burkinabé qui sort de l'université, il faut lui donner un emploi à la fonction publique, mais l'État a la responsabilité et le devoir de créer les opportunités.
Mm-hmm. Les opportunités je vais rebondir dessus.
Les jeunes à créer leurs entreprises, et là je fais le lien avec le système éducatif.
Je vais laisser un auditeur, ils sont en train de se battre dans la régie pour pouvoir rebondir sur votre commentaire, je vous reprends tout de suite. On a Pablo, bonsoir. Bonsoir Pablo.
Allô, bonsoir. Ouais, Pablo, je suis en ligne.
Oui, comment vous allez?
Ouais, je vais très bien.
Très rapidement, est-ce que vous pouvez commenter le défi justement de l'emploi et du chômage que nous a mentionné Badiaïma?
Ok, moi je vous remercie d'abord. Je remercie toute l'équipe qui a pu organiser ce débat entre les frères et sœurs. D'abord, le premier défi que moi je peux dire à le président Ibeka, moi je suis en Guinée-Conakry, d'abord, le premier défi, c'est le plan sécuritaire. Mais lorsque on parle ici sur le plan sécuritaire, en Afrique, vous le savez très bien que partout sur le continent africain est amorcé par la rébellion. Et
oui.
La rébellion, là, d'après tous mes constats, moi j'ai vu que la rébellion, là, ce n'est pas les Blancs qui sont rebelles sur le continent, parce que comme j'ai dit dans mon commentaire, c'est les fils dignes de l'Afrique qui sont inconscients, malhonnêtes, haineux entre nous, qui créent la rébellion contre leurs propres frères. Voilà ma question pour nous.
Créer la rébellion contre ses propres frères. Donc c'est plutôt la situation sécuritaire qui vous inquiète. Merci beaucoup Pablo. On doit terminer l'émission, donc je vais reprendre mon invité Badiaïma. Vous êtes là?
Oui.
L'émission touche à sa fin. Un commentaire pour terminer?
Oui, mais c'est clair que la question de la sécurité, elle est centrale et transversale dans l'accord pour la paix et la réconciliation. Donc, la préoccupation de votre auditeur est prise en compte dans l'accord. Maintenant, je faisais juste le lien avec l'éducation. Il faut vraiment revoir les curricula pour que les jeunes qui sortent de l'université, qui sont diplômés...
Merci beaucoup, Badjeima. C'est la fin de votre avis. Tout de suite, Le Monde aujourd'hui, présenté par Ekabadou.